Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans C'est Ludique, votre rendez-vous 100% jeu de société. Alors je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où la passion du jeu est à l'honneur. Et aujourd'hui je vous présente l'île des Maudits, une nouveauté ludique qui mérite toute votre attention. Un jeu sorti il y a quelques semaines dont on va découvrir ensemble les mécaniques et surtout pourquoi il pourrait bien trouver sa place sur vos étagères. Et restez bien avec nous car en seconde partie d'émission on retrouvera Morgane pour Soirée Jeu. C'est ludique, ça commence tout de suite. Au menu aujourd'hui, donc, c'est l'île des Maudits, un jeu de Danino Valente et Rodrigo Rego, illustré par Aaron NG pour 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans et édité par Matago. Alors dans ce jeu d'association d'idées coopératif ou compétitif, vous allez devoir sortir de l'île, mais avant tout il faudra trouver les trésors. Je vais vous présenter la version coop. Alors au niveau matériel et mise en place, vous avez une carte en tissu représentant l'île. Des tuiles hexagonales où le guide appelé l'éclaireur inscrira les mots et les placera sur la carte selon le choix des autres joueurs qui sont appelés donc les aventuriers. Le guide connaît lui la localisation des mots de départ et toutes les cases de l'île avec les trésors mais aussi les pièges, les cases malédiction et les allumettes, mais il ne peut pas leur donner bien sûr d'indication, hormis l'indice, le mot qu'il a choisi. Enfin, vous avez un plateau suivi par rapport aux différentes cases, vous allez placer dessus 7 tuiles vierges. Mais alors, comment on joue? Eh bien, première chose, l'éclaireur va donner un indice en rapport, bien sûr, avec l'un des trois mots présents et en essayant d'orienter au mieux les joueurs aventuriers vers les cases que lui souhaite pour éviter notamment les pièges ou les malédictions. L'éclaireur, lui, a la carte devant lui, donc il sait où il faut qu'il emmène les joueurs. Après avoir donné un indice, les joueurs vont ensemble décider où le placer. Bien sûr, l'éclaireur ne dit rien. Il ne dit pas « non, c'est pas sur cette case ». Par contre, il va annoncer sur quel type de case l'indice placé se trouve. Si c'est un trésor, vous cochez un trésor. Il y en a trois sur la carte en mode normal. Mais si vous en trouvez un, c'est déjà bien. Mais pour l'emporter, il faudra trouver aussi la case « sortie ». Parmi les cases à éviter, les rouges, la malédiction, si vous avez placé une tuile dessus avant de sortir, il faudra trouver l'amulette. Si vous sortez sans amulette, c'est perdu. C'est perdu également si vous avez découvert deux cases malédiction, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule amulette. Il faut savoir qu'il y a aussi les cases violettes, ce sont les cases pièges. Alors elles ne sont pas fatales, mais par contre, vous allez devoir retirer une tuile de votre réserve. C'est donc un indice de moins. Heureusement, il y a les cases eau qui permettent de récupérer les tuiles nécessaires. Vous allez comme ça enchaîner l'exploration de l'île avec de nouveaux indices dans le but de ramener le trésor et de trouver la sortie avant qu'il n'y ait plus de tuiles disponibles dans la réserve. Il existe aussi donc un mode compétitif avec deux éclaireurs où là il y aura une course au trésor, mais que je vous laisserai découvrir. Alors ce que j'en pense de l'île des Maudits, c'est un jeu qui tout de suite m'a fait penser à Codenames dans son mode compétitif avec les rôles l'assassin représenté ici par les malédictions. Le rôle le plus intéressant c'est celui de l'éclaireur, pensez à le changer car même si les aventuriers décident ensemble du placement de la tuile, c'est à l'éclaireur de pas se tromper quand il écrit un mot car sinon le chemin pourrait être plus long que prévu. C'est une belle surprise mais parfois il y a des petits « eh oui, il faut essayer de se retrouver ». C'est pas si évident de ça. Un jeu d'association d'idées, alors s'il détrône pas Codenames, en tout cas il s'en rapproche un petit peu. Voilà, ça s'appelle l'île des Maudits, c'est sorti donc il y a quelques semaines chez Matago. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour soir.
La pause déjeuner. C'est ludique, les soirées, je sais, magique.
Et comme tous les lundis, on retrouve Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeu. Bonjour Morgane.
Salut.
Alors Morgane, aujourd'hui, tu as encore beaucoup joué, je suppose, tout le week-end.
Oui, pas mal, on a fait 19 jeux, donc ça va.
19 jeux, mais alors explique-moi, donc c'est avec Thierry, je suppose, que tu joues.
Oui, oui, voilà. On a fait un week-end jeu. Ouais.
Un week-end jeu, donc 19 jeux, vous commencez à quelle heure?
Alors là, on a commencé jeudi vers 19h.
Jeudi vers 19h, d'accord.
Et on a arrêté, on a dormi quand même, entre-temps.
Ah ouais, quand même.
Oui, oui, on dort, on est allé, tu vois, le vendredi matin, on n'était pas là, donc on n'a pas joué, on a joué jusqu'au samedi soir.
jusqu'au samedi soir. Donc, ok. Et comment ça se passe ? Donc, c'est-à-dire, vous faites un jeu et vous enchaînez avec un autre jeu et ainsi de suite ?
Ouais, c'est ça. Après, il y en a où on fait plusieurs parties.
D'accord.
Quand ça nous plaît ou qu'on a envie de voir les ressentis qu'on a dessus, vraiment, après plusieurs parties. Mais sinon, on les enchaîne.
Et alors...
Enfin, on les enchaîne, on fait des pauses hein, quand même. Hein, mais...
oui, une petite pause de café ou des choses comme ça, quoi.
Voilà.
Et alors, quand on fait 19 jeux, forcément, sur les 19 jeux, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a des nuls. Comment on sélectionne après son ressenti autour de ces jeux-là ?
Bah après, ça dépend pas mal de la mécanique aussi déjà de base, parce que ça peut être une mécanique qu'on n'aime pas à la base.
Ouais.
Vois, genre ça peut être des jeux coop, des jeux de placement de tuiles.
Ouais, vous n'êtes pas coop, vous êtes plutôt compétent.
Alors si, pour le coup, non, on est quand même coop, ça va, on s'entend bien en coop. Mais après, tu peux avoir un ressenti différent, tu peux savoir que la mécanique, tu l'aimes pas du tout.
Ouais.
Parce que c'est pas ton ce que t'aimes à toi, mais par contre, tu vas reconnaître que le jeu est très bon.
D'accord, ok.
Et ça, ça a été le cas, bah, par exemple, pour un des jeux dont on va parler aujourd'hui,
ouais.
où tu te dis, bah, ok, la mécanique, nous, ça passe pas des masses, mais ouais. Par contre, le jeu fonctionne très bien et
d'accord.
Est très très bon.
Ok, donc, tu en as sélectionné 3 ou 4, c'est ça ?
J'en ai pris 4, ouais.
Ok, on commence avec le premier.
Et bah, du coup, on va passer, alors, c'est une semaine de jeux familiaux, hein, cette semaine, du coup, on va commencer avec Flo. Flo, c'est un jeu de 4 auteurs dont je vais essayer de pas trop écorcher les noms, parce que c'est que des noms étrangers. Justina Lapinskine, Tadas Kastanoskas, Marijus Lapinskas et Dimitrius Babichus. C'est illustré par Gins Zilbadonis et Renis Petersons. Après ça, je peux faire multilingue, c'est bon.
Ouais, bah, c'est pas mal. Mais Flo, c'est pas le film ?
C'est ça, c'est le film d'animation. Donc, si vous connaissez le nom, si le nom vous parle, c'est normal, parce que voilà, c'est basé sur l'adaptation du film d'animation qui a eu un beau succès au Festival d'animation à Annecy et qui avait été aussi présenté au Festival du film à Cannes.
Ouais.
Donc on garde les bases du film parce que dans Flo, on va devoir coopérer pour ramener tous les animaux sur le bateau. On est sur un jeu du coup coopératif avec un plateau central et un jeu chronométré. Chronométré puisqu'à chaque manche, on aura seulement une minute pour faire avancer le mieux possible les chemins qui vont jusqu'au bateau avant que la vague géante n'arrive. Donc en fait, chaque joueur l'un après l'autre aura deux choix, piocher une tuile pour la placer sur le plateau, donc avec des chemins dessus, ou jouer une de ses cartes actions. S'il choisit de piocher et de placer une tuile, il devra faire en sorte de la placer adjacente soit à un animal qui se trouve dans l'un des coins du plateau,
d'accord.
Soit adjacente à une autre tuile déjà posée, mais toujours de façon à ce que les bords soient cohérents. On peut pas faire de voie sans issue facilement,
ouais.
Et qu'il n'y ait pas d'interruption de chemin d'eau du coup entre l'animal et cette tuile. Par contre, si on peut pas poser la tuile sans bloquer, alors chaque animal en fait a deux voies possibles, donc si on peut pas poser la tuile sans bloquer les deux voies d'un animal, on devra la défausser parce que certaines tuiles ont aussi des voies sans issue et elles vous faciliteront pas la tâche pendant la partie. Deuxième possibilité, c'est donc de jouer une carte action et ces cartes, bah, elles peuvent vous avantager. Par exemple, grâce à certaines d'entre elles, on pourra déplacer ou retirer une tuile qui est déjà posée, protéger une tuile avec un oiseau dessus, etc. Parce qu'en fait, quand la minute elle est écoulée, il y a la phase de vague géante qui arrive.
Mmh.
Donc un joueur va lancer les deux dés qui sont dans le jeu et en fait, on va retirer du plateau toutes les tuiles qui sont sur la ligne et la colonne indiquée par les dés.
D'accord.
Donc si tu fais 3 sur la ligne et 4 sur la colonne, et bah, tu vas tout retirer. Sauf celles du coup qui ont un oiseau dessus parce que ça leur permet justement d'être sauvés entre guillemets parce qu'on va juste enlever l'oiseau. Donc là ça pique un peu parce que bah, surtout si on a réussi à bien remplir les lignes pendant la minute de manche. Et une fois que la vague elle est passée, on va repartir pour une nouvelle manche d'une minute et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on gagne ou qu'on perde tous ensemble. Donc pour l'emporter il faudra que les 4 animaux soient reliés au bateau central par une ligne ininterrompue.
D'accord.
Par contre si on n'a plus de tuiles ou de cartes actions à jouer, là ça sera une défaite collective.
Ok.
À la première partie et surtout bah, la première manche du coup on y est allé tranquille, hein. On y est allé un peu trop tranquille d'ailleurs vu la vague géante qu'on s'est prise derrière.
D'accord.
Qui a retiré pas mal de nos tuiles mais au final on s'est vite pris au jeu de faire les chemins qui relient les animaux au bateau. En fait en y jouant j'ai retrouvé des sensations à la Magic Maze.
Ah oui d'accord.
Je sais pas
okay.
Si ça te parle le jeu.
Si, si,
mais
si,
voilà
ouais.
Le jeu chronométré voilà t'as la petite pression supplémentaire en plus et pour le coup voilà j'ai pas vu le film pas encore en tout cas mais c'est vrai que l'univers du jeu est tout mignon, ça fait vraiment un jeu familial agréable à jouer. Même avec les plus jeunes, alors vu comme ça, c'est vrai que ça peut être sûrement un peu trop simple si vous y jouez entre adultes ou avec des grands enfants. Mais pour pallier à ça, on a des cartes scénario qui rajoutent des contraintes à nos parties, mais aussi des obstacles qui seront installés sur le plateau. Donc on a forcément une petite touche de hasard hein, avec les tuiles qu'on n'aura pas forcément au bon moment ou quand on veut. Mais il n'y a rien de dérangeant parce que voilà, on enchaîne vraiment les manches d'une minute. Et au final, bah, on a un jeu qui est familial, mais qui sera très bien avec les plus jeunes, mais pas que. Et surtout, bah, ça fait un moment ludique sans trop de prise de tête, quoi, à part ce petit côté stress.
Ouais, et puis là, donc, le thème, donc, bah, forcément, il y a des chats. C'est un thème qui est beaucoup utilisé hein, dans le jeu de société, les chats. Je pense qu'on utilise plus les chats que les chiens. Hein.
Oui, ah bah clairement, à part Dog Park. Et il y a eu quoi? Il y a eu le spot...
Little Dog, un jeu pour les enfants aussi, je sais plus.
Ah oui, il y a celui-là qui vient de sortir aussi chez Blue Orange, mais oui, il y a très peu de jeux avec des chiens.
Ouais, il y a un autre jeu aussi qui va sortir avec des chats, on aura l'occasion d'en reparler, qui s'appelle Neko Syndicate. Donc ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler quand il sortira. Autre jeu dont tu voulais nous parler, Morgane.
Alors, on va parler de deux petits jeux de la gamme des Oink Games. Mmh. Donc, Oink Games, ce sont des jeux mini-format, mini-boîtes, mais toujours bien remplis de matériel. J'ai eu l'occasion d'en essayer deux parmi les derniers qui sont sortis en France avec Pixie Games. Tout d'abord, on a Souvenir de Venise. C'est un jeu de Jun et Goro Sasaki, qui est illustré par Jun Sasaki, où on va partir arpenter les ruelles et les canaux de Venise à la recherche de cadeaux souvenirs à ramener à nos amis. Mmh. Mais pour nous complexifier la tâche, ils n'aiment pas recevoir des choses différentes. Donc, on va devoir trouver les mêmes souvenirs.
D'accord.
Et en prime, on a
mémorie,
notre avion.
Quoi.
Voilà, un genre de, un peu mémorie. Et en prime, on a notre avion qui est sur le point de décoller. Donc, il faut vraiment qu'on fasse vite. Donc, pour jouer, on aura une zone de jeu de plusieurs tuiles devant nous, face cachée, qui représente du coup la ville et qui contiennent les fameux souvenirs. Donc, grâce à notre gondole, on va pouvoir parcourir les rues pour faire nos emplettes. Première étape d'un tour, on va dévoiler une tuile de la ville face visible. Ensuite, le joueur va se déplacer de 1 à 3 cases en fonction du résultat du dé qu'il aura lancé et va choisir une des tuiles aux intersections. Là, il y a plusieurs possibilités. On la regarde secrètement et on l'achète en la laissant face cachée devant nous et en la remplaçant par un jeton, une pièce d'argent. Ou on va la reposer face cachée sans l'acheter. Donc, on va avoir un petit côté bluff de dire, bah, en gros, celle-là, elle m'intéresse pas, mais je peux aussi me dire, je sais qu'elle est là, donc je pourrais aller la chercher au retour.
Ouais, ok.
Autre possibilité, sinon, c'est de revendre l'un de ses souvenirs pour récupérer une pièce d'argent qui a été posée auparavant. Si on révèle, par contre, il y a deux tuiles, il y a une tuile vendeur de pigeons et une tuile pigeon, et ben chaque joueur va passer une tuile à son voisin de gauche et on fera en sorte forcément de ne pas casser nos souvenirs et de ne pas donner un souvenir qui va arranger le joueur d'après. Donc notre virée shopping, elle se passe bien, mais il faudrait pas qu'on oublie de revenir à temps pour l'embarquement de notre vol retour. Donc la partie, elle se termine quand toutes les tuiles de la zone de jeu centrale sont visibles. Et là, j'espère pour vous que vous aurez bien réalisé votre embarquement, puisque tout joueur qui n'est pas revenu à temps à l'aéroport a d'office perdu la partie.
Ah oui, d'accord.
Donc là, on regarde même pas le score. C'est perdu, il a raté son avion, il peut pas ramener ses souvenirs.
Ok.
Pour les joueurs qui ont embarqué, par contre, on va révéler nos tuiles. Et là, on va marquer des points pour chaque trio de souvenirs identiques qu'on aura ramené avec la valeur qui est indiquée dessus. Donc, on est vraiment sur un jeu hyper accessible, hein, mais qui n'est pas dénué de stratégie pour autant.
Ouais.
Parce que chaque souvenir a une rareté plus ou moins importante. Donc, on va quand même tourner avant de se dire, ok, je ramène ces souvenirs-là. Mais qu'en même temps, on doit gérer notre retour à l'aéroport. En plus de ça, chaque souvenir qui fera pas partie d'un trio identique, ça nous fera perdre des points. Parce que ça sert à rien d'encombrer nos bagages inutilement avec des souvenirs que nos amis ne voudront pas. Donc voilà, au final, on a un jeu qui mélange assez brillamment la prise de risque, le bluff, la chance aussi, pour en faire un jeu qui joue très bien même à deux.
D'accord.
Donc là, on y a joué à deux. Et en fait, t'as un matériel en plus minimaliste, comme à chaque fois chez Oink Games.
Ouais, c'est
et
génial.
Et qu'on peut transporter partout. Donc moi, j'adore ces petites boîtes.
Petite boîte bien remplie. Ma préférée d'ailleurs, moi, des boîtes chez One Game, c'est Scoot.
Scoot, c'est un de ceux que j'ai jamais essayé.
C'est pas vrai?
Faut que je l'essaye.
Ah bah oui, parce que Scoot, alors il est passé un petit peu inaperçu parce qu'il est sorti, mais il a quand même été nommé au Spiel, hein.
Ouais,
donc
pas...
voilà, il est passé un petit peu inaperçu parce que les sorties en mois de décembre, donc là où il faut sortir des jeux en général. C'est un jeu qui est vraiment dans la gamme Caro Combo, Django, Odin, quoi, mais qui le fait beaucoup mieux encore, quoi.
Donc, faut vraiment que je l'essaye.
Ah oui, il faut vraiment que t'essayes Scoot. Et puis aussi dans cette gamme-là, il y a Insider aussi qui est pas mal.
Ah oui, Insider, mais j'avais bien aimé, ouais.
Ouais, ça va, voilà. Donc, tu as encore un autre jeu de cette gamme à nous parler, Sia.
Oui, j'ai Mask Men, du coup, c'est un deuxième jeu du coup de cette gamme. Ça a été créé et illustré par Jun Sasaki, donc l'un des auteurs de Souvenirs de Venise dont on vient de parler.
Mm-hmm.
Et cette fois, on va incarner un promoteur de catch professionnel avec des catcheurs qui sont pas si professionnels que ça.
D'accord.
Notre but, c'est justement de les amener à progresser pour aller à la victoire et qu'ils puissent satisfaire les sponsors de notre club. Sauf que personne ne connaît la valeur, la force de chaque catcheur et ça, vous allez la déterminer en jouant, en fait.
Okay.
Donc, Mask Men, ça se joue en 4 manches. C'est un jeu de des fosses et en fait à chaque manche il y a certains catcheurs qui vont se démarquer d'autres. Notre but ça sera donc de nous débarrasser de toutes nos cartes le plus vite possible. Le premier joueur ne pourra jouer qu'une seule carte parce qu'il est l'hôte de la rencontre et il va placer un petit jeton qui correspond au catcheur, à la couleur du catcheur au centre de la table. Ensuite, à chaque tour, on peut jouer entre une et trois cartes, soit de même couleur, alors de même couleur de notre main, du moment qu'elles sont pas de la même couleur qu'un catcheur qui a déjà été posé. Donc le deuxième joueur, il va placer ses cartes d'un autre catcheur et son jeton correspondant ira au-dessus du premier catcheur puisqu'avec une ou deux cartes, il sera forcément plus fort que le précédent. Le joueur suivant va en faire de même et ainsi de suite. Petit à petit, on va avoir nos catcheurs qui vont commencer à se classer en fait en fonction de leur force et on pourra jouer par exemple une seule carte d'un catcheur plus fort qu'un autre qui a été joué juste avant. Je vais te faire un exemple rapide hein, parce qu'il est, il est très compliqué à comprendre.
Okay.
Toi, tu décides de jouer un catcheur bleu.
Okay.
Donc, on place le jeton bleu au centre de la table. À mon tour, je joue deux catcheurs roses. Donc, il n'a pas encore été joué, mais avec deux cartes, il est obligatoirement plus fort que ton catcheur bleu. Mm-hmm. Donc, je vais placer le jeton rose au-dessus du bleu. Thierry débarque et il nous sort trois cartes vertes.
Ok, donc il est plus fort.
Un catcheur vert, donc lui, voilà, il devient plus fort que nous deux. On ne peut pas jouer plus de trois cartes, donc on va repartir sur une nouvelle donne. Thierry va jouer un catcheur gris, couleur qui n'a pas été encore déterminée avant. Parce que toi, tu as joué du bleu, du rose et
okay. Enfin,
on a joué du bleu, du rose et du vert. Donc le gris, on va attendre un peu, on va le laisser de côté pour l'instant. Et derrière, toi, tu joues deux bleus. Le bleu, par contre, on connaît sa force.
Ah oui, ok.
Donc on sait que le bleu, bah, tes deux cartes de catcheur bleu seront forcément plus fortes que la carte catcheur gris que Thierry a joué.
Ah oui, ok.
Donc c'est comme ça que petit à petit, on va commencer à évaluer les valeurs de chaque catcheur. Clairement, à la lecture des règles, on ne comprend pas grand-chose. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Même là, à l'expliquer, je me rends compte, je me dis, mais...
T'as regardé une vidéo, du coup?
Alors, j'ai regardé des vidéos, j'ai tout fait. Hein. Et puis, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. On a essayé un ou deux tours un peu à l'aveugle, tu sais, en jouant ouvert pour voir comment ça fonctionnait. Mais par contre, j'en ai parlé avec Pixie Games, justement, qui s'occupe de la réédition.
Oui.
Et dans leur réédition française, ils ont prévu de refaire des règles.
Ah ouais.
Les règles ont été okay. retravaillées, refaites. Donc là, ils reviennent en boutique cette semaine, je crois.
D'accord.
Ou la semaine prochaine. Et les règles ont été retravaillées par l'équipe de Pixie, heureusement.
Ah oui. Okay.
Parce que là, en fait, on a clairement l'impression que c'est du traducteur hein, automatique.
Ouais.
C'est
souvent déjà dans ces petites boîtes, c'est pas évident de comprendre les règles.
Ah oui, non, mais là, sur Maskman, c'est pas possible. J'ai regardé 2-3 vidéos, ça voulait pas. Et en fait, une fois que tu passes cette étape compliquée des règles dépassées, tu découvres vraiment toute la subtilité du jeu, de placer ces catcheurs au bon moment pour qu'ils puissent pas être battus, de faire les bonnes combinaisons pour bien placer les jetons des catcheurs dans une hiérarchie qui t'arrange pour te défausser de tes cartes, justement. Donc voilà, ça devient plus clair, plus dynamique et plus facile à jouer. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant. Alors même si au début on va se dire pourquoi je fais ça, en fait ça vaut la peine de le découvrir si vous aimez les jeux de défausse parce qu'ils peuvent vraiment vous surprendre.
On rappelle que les jeux One Games sont des jeux japonais, donc du coup c'est vrai que c'est pas évident. Et puis au niveau des thématiques, des fois on a des thématiques qu'on n'aurait pas ici forcément en France ou en Europe. Hein.
Ah bah là clairement du catch.
Ah voilà.
Toi t'en vois pas souvent donc.
Eh ben super, merci beaucoup Morgane. On se
avec
retrouve
plaisir.
Lundi prochain pour un nouveau numéro de C'est Ludique et une nouvelle soirée jeu. Tu vas encore faire plein de jeux, ça c'est sûr.
Oui, oui.
Voilà, tout simplement. Il y a encore des week-ends à 19 jeux de prévu là ou
Pas tout de suite, mais bientôt.
Ah ben voilà, mais bientôt. Et puis on se retrouvera aussi bientôt aussi avec Thierry pour un nouveau défi parce que le dernier, il n'a pas été vraiment très très bon.
Ah bah non,
mais. Hein,
c'est pas être bon tout le temps. Donc...
Bah voilà, c'était pas terrible. On a perdu à Opération Zèbre.
J'ai toujours gagné mes parties d'Opération Zèbre.
Moi aussi, j'ai toujours gagné mes parties.
On sait d'où ça vient maintenant.
Ah bah voilà. Peut-être. C'est toujours les absents qui ont tort, j'ai envie de te dire.
Exactement.
Merci beaucoup, Morgane, et à lundi prochain.
Avec plaisir, bonne semaine.